Alors, eh bien, j'aimerais qu'on prenne un roi, premier livre de roi, des rois. Ça fait quelque temps, ça me trottait dans la tête, je me suis dit, ça serait bien peut-être une fois de faire les miracles, et notamment les miracles d'Élie ou d'Élisée. Alors, eh bien, on va voir ce matin le premier miracle d'Élie, le Tishbite, et ça se trouve en 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Alors pour le contexte, nous sommes au temps d'Akab, un Akab, roi d'Israël, mauvais roi, dominé par sa femme Jézabel, Jézabel qui est diabolique, machiavélique, et ils sont tous les deux eh bien portés vers le culte de Baal, du faux dieu, et ils menaient eh bien Israël dans l'idolâtrie. Et un jugement va s'abattre sur Israël, et ce jugement va être prononcé au travers du prophète Élie. Et on est au 1 Roi, chapitre 17, verset 1. On va lire le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc Dieu juge Israël par la sécheresse. Et c'est dans ce contexte que, eh bien, Élie va d'abord aller se réfugier au torrent de Kérit. Et c'est la suite, on va le lire. Donc, versets 2 à 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc Dieu avait réservé à Élie un endroit où il serait, eh bien, préservé de la sécheresse, hein, et il pourrait vivre, hein. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Alors il est resté certainement plusieurs semaines à cet endroit. Et puis il pouvait plus rester plus longtemps parce que le torrent est devenu une rivière, la rivière est devenue un ruisseau et le ruisseau est devenu un filet d'eau. Et finalement, eh bien, ça s'est interrompu. Élie, jusqu'à présent, était seul là, tout près du torrent de Kérit et tout allait bien. Et Dieu le nourrissait d'une manière qui était providentielle. Il envoyait des corbeaux qui lui apportaient de la viande. Mais toute chose a une fin. Et Dieu prévoyait maintenant un autre moyen de le nourrir. Jusqu'à présent, il était dans l'isolement, tout seul dans sa vallée, ne comptant sur personne sauf sur Dieu. Mais Dieu va l'obliger à se rendre à Sarepta. 1 Roi 17, 8 à 16. Donc, on va lire le texte qui nous intéresse ce matin. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ainsi, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Élie était donc seul, et nous allons le voir, selon la volonté de Dieu, il va s'associer à cette veuve pour survivre, la veuve et son fils allaient mourir. Élie, s'il restait dans son torrent à sécher, eh bien, allait mourir aussi. Mais selon la volonté de Dieu, ils se sont associés et ils ont vu Dieu agir. Et il y a une vérité dans ce passage qu'on peut résumer par cette proposition. Il faut s'unir pour voir Dieu agir. Et on est très individualiste, par nature, hein, particulièrement en France. Chacun fait son petit truc dans son coin, mais le premier miracle qu'Élie fait, il le fait en s'associant avec quelqu'un. Et il est clair que dans la Nouvelle Alliance, dans le corps de Jésus-Christ, hein, Dieu ne veut pas d'individualisme. Et ça, c'est mon premier point. Hein. Avant de désirer s'unir, s'associer, il faut d'abord commencer par en éprouver le besoin. Nous avons besoin des autres. Réaliser notre besoin. On pense souvent qu'on n'a pas besoin des autres, hein, qu'on peut toujours retomber sur nos pattes tout seul. On peut s'en sortir tout seul. Et les baptistes indépendants hein, sont forts hein, dans ce domaine. L'idée d'être indépendant, vraiment, de dépendre de personne. Alors, c'est bien à certains égards. Hein, la Bible parle d'une indépendance. Dieu dit lui-même que chacun doit mettre son honneur à vivre tranquille, s'occuper de ses propres affaires et à travailler de ses mains, en sorte que nous nous conduisions honnêtement envers ceux du dehors et que nous n'ayons besoin de personne. Donc voilà, que j'ai besoin de personne. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu que son corps fonctionne. Le corps de Christ, l'Église, ce n'est pas un ensemble d'individus qui sont isolés, qui se connaissent, qui se rencontrent, mais surtout qui évitent de dépendre ou de s'appuyer les uns sur les autres. Comme s'il faudrait garder ses distances et pas aller trop loin, hein, pas créer des liens qui soient trop profonds. On a vu ensemble, on vient d'étudier l'Épître aux Éphésiens dans ces derniers mois, il est dit que tout le corps de Jésus, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie dans l'amour. Et on sent dans ce verset que l'Église, ça forme un tout. Il y a des liens, chacun s'imbrique dans l'autre, chacun apporte à l'autre, enrichit l'autre et dépend de l'autre. Et c'est ce qui permet justement qu'il y ait une croissance dans le corps. S'il n'y avait pas des liens, si chaque membre ne dépendait pas du reste du corps, alors eh bien, il n'y aurait pas de croissance. On ressent la même chose dans l'Épître aux Corinthiens. Paul, il décrit l'Église, il dit que c'est un corps humain. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Ou bien la tête ne peut pas dire, j'ai pas besoin des pieds, etc. Donc, il y a un besoin des uns et des autres. Et c'est une nécessité dont on doit prendre la mesure. Personne ne peut tout faire, tout comprendre, tout réaliser, tout réussir tout seul. Alors, il y a certaines personnes, c'est sûr, elles sont plus douées que d'autres. Hein. Il y en a, il y a plein de dons. Mais néanmoins, ça atteint une limite. Hein. On peut faire beaucoup, mais à un moment, il y a une limite. On se dit, mais j'ai besoin aussi des autres. Mon père vient juste de m'envoyer une petite devise. Il a dit, voilà, je ne sais pas comment il a tourné ça, mais la devise de notre couple. Voilà, ils ont lu ça dans un magazine qui n'a rien à voir, hein, mais c'était marqué sur une plaque hein, dans le décor. Et ça dit, seul, on va vite, ensemble, on va loin. C'est beau, hein? Alors c'est sûr, seul, on va vite, hein? Parce que on fait son truc, hein, on sait ce qu'on fait, on le fait, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, on a le sentiment vraiment d'aller vite. Mais on ne va pas forcément très loin. Ensemble, on va loin. Ensemble, on voit Dieu agir. Et Dieu a jugé qu'il était temps qu'Élie se rapproche de quelqu'un. Et là, le miracle n'allait pas venir directement du ciel, sans l'aide d'aucune main. Mais le miracle allait venir au travers de la veuve, au travers d'une femme, au travers d'une personne. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que l'Éternel dise « Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Parce qu'on se dit « Mais si Dieu avait dit Élie, tu vas aller à Sarepta, tu vas nourrir une veuve. Bon, c'est le prophète hein, de Dieu qui va aller nourrir une veuve. Mais non, là, c'est le contraire. Élie, tu vas aller à Sarepta et c'est une veuve qui va te nourrir. Et on se dit, mais les voix de Dieu ne sont pas toujours nos voix, ses pensées ne sont pas toujours nos pensées. Donc, dans un premier temps, c'est la veuve qui va venir en aide au prophète. Hein. Et c'est souvent comme cela. Dieu se sert des choses qui sont faibles, des choses qui sont folles, qui sont fragiles, qui sont viles, pour aller eh bien, apporter quelque chose. Il va se servir d'un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons pour aller nourrir une foule immense. Hein. Il va se servir d'hommes qui étaient simples, qui n'avaient pas d'érudition, pour aller donner ce message de la bonne nouvelle et grâce à ça, eh bien, se répandre partout. Simplement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut accepter de partager ce que l'on possède. Il faut le mettre à la disposition du Seigneur. Donc, il faut accepter de faire un pas vers l'autre. Et ça, c'est la deuxième chose sur laquelle je veux mettre l'accent. Partager ce que l'on possède. La veuve a accepté de partager le peu qu'elle possédait. Alors, Élie va commencer par lui demander de l'eau. Elle lui donne de l'eau. J'imagine qu'il restait peut-être de l'eau au fond des puits, hein, il devait rester encore un peu d'eau. Mais Élie lui demande du pain. Il dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et là, c'est trop. Ce qu'il lui demande là, c'est trop. Verset 12, on peut le relire ensemble. Elle dit « Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. » Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et on voit cette veuve, elle n'a pas grand-chose. Un peu de farine, un peu d'huile, et le prophète lui demande le peu qu'elle possède. Mais c'est tout ce qu'elle possède. Comment le lui donner ? Comment partager ? Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Dieu nous demande à chaque fois le peu qu'on possède. Et ça nous est très difficile. Le petit garçon, dans les évangiles, aurait pu se dire « Mais qu'est-ce que je vais manger si je donne mes 5 pains et mes 2 poissons pour cette foule immense ? Qu'est-ce que je vais manger ?» Les chrétiens de Macédoine, vous savez, dans 2 Corinthiens, quand il s'agissait de faire une offrande, ils auraient pu se dire, mais comment nous allons vivre si nous aidons généreusement les chrétiens de Jérusalem, alors que nous-mêmes, eh bien, on n'a pas grand-chose. La petite fille servante de Naaman, elle aurait pu se dire, mais qu'est-ce que ça changera finalement si j'ouvre la bouche, moi, et je dise à mon maître, à Naaman, qu'il y a un prophète qui pourrait peut-être le guérir de la lèpre. Je suis qu'une esclave, il ne va pas m'écouter. David, encore berger, aurait pu dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec une fronde devant un géant comme Goliath ?» Et on pourrait comme ça continuer. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Où finalement, c'était des personnes qui étaient faibles, qui étaient sans importance, mais à chaque fois, elles ont donné le peu qu'elles avaient à leur disposition. Elles ont offert à Dieu ce qu'elles possédaient. Pour certaines, ça leur coûtait vraiment, hein, parce que c'était tout ce qu'elles possédaient. Mais dans ce sacrifice, dans cette foi, hein, ce don de foi, eh bien, Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Simplement, il faut accepter de donner. Et Dieu ne nous demande pas de donner ce qui est déraisonnable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il demande ce qui est juste. Là, Élie demandait un petit gâteau. Il lui demandait un petit gâteau, et puis après... Eh bien, avec le reste, tu en feras un peu pour toi et un peu pour ton fils. Tu vas partager. Je ne te demande pas de tout me donner. Je te demande un petit gâteau. Mais il faut partager ce qu'on possède. Il faut le mettre au service du Seigneur. Et c'est un acte de foi. Et Dieu honore les actes de foi. Et ça, c'est mon troisième point. Faire confiance. Réaliser qu'on a besoin des autres, désirer et bien partager, et puis faire confiance. La veuve, Elle n'aurait jamais fait un gâteau à Élie si elle n'avait pas eu confiance que quelque chose allait se passer. Mais elle a eu foi, hein. Elle a entendu la voix de Dieu et elle a cru. Est-ce que nous entendons Dieu nous parler? Regardez versets 13 et 14. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Est-ce que nous entendons Dieu? La première chose qu'il dit ici, c'est ne crains point. Ne crains point. Et les craintes, elles sont nombreuses. Quand il s'agit de s'avancer dans la volonté de Dieu, de faire ce qu'il nous demande, il y a toujours des craintes. Forcément parce que Dieu nous amène à sortir de notre zone de confort. Humainement et naturellement, nous n'allons pas faire certaines choses. Parce qu'on est justement dans ce qu'on appelle cette zone de confort, hein. On s'y sent bien, on a choisi d'être là, on se sent en sécurité, on n'a pas de problème, on pense ne pas avoir de manque, tout va bien. Et la volonté de Dieu, eh bien, c'est sortir de cette zone de confort, et puis, ben, c'est peut-être prendre des risques, hein, et ça fait toujours peur. Ça nous paraît difficile. Parce que ça nous oblige à faire ce que nous ne ferions pas si Dieu ne nous demandait pas. Alors, eh bien, il y a de la crainte, justifiée ou injustifiée, mais il y a de la crainte, hein, et les pensées s'enchaînent, il y a toutes sortes de questions, hein. Cette veuve, elle s'était préparée à cette fin. Elle se disait, c'est mon dernier repas. Je vais me rassasier une dernière fois avec mon fils, hein, et puis tenir encore peut-être un certain nombre de jours, et puis on va s'éteindre. Et on va mourir. Alors il faut se dire, à l'époque, pour une veuve, c'était très difficile de vivre. Mais une veuve, dans une période de sécheresse, eh bien, c'était encore plus difficile. Parce que si, quand tout allait bien dans l'abondance, il pouvait avoir des dons, mais dans la sécheresse, eh bien, chacun gardait pour soi. Alors, eh bien, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et elle se disait qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'espoir. Mais Élie lui dit, ne crains point. Et c'est souvent ce que Dieu nous dit. C'est la première chose qu'il nous dit. On retrouve cette phrase dans les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, il y a cette parole qui est formidable. Ben, c'est celle qui était affichée, hein, durant le culte. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et si la crainte existe, c'est qu'il y a un manque de confiance. C'est le manque de foi qui engendre la crainte. On ne croit pas Dieu, alors eh bien on a peur. Alors on craint. Mais Jésus a dit cette parole exceptionnelle, ne crains pas, crois seulement. Et c'est une parole qui est rassurante, une parole qui est simple. Et c'est la première chose que Dieu nous dit. Est-ce que nous l'entendons nous le dire? La deuxième chose qu'il nous dit, c'est prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Et là, on voit la réalité de la foi. C'est le d'abord qui veut tout dire. Élie ne demande pas les restes. Il ne demande pas les miettes qui allaient rester de ce dernier repas avec son fils, hein, mais il demande qu'il soit servi d'abord, en premier. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Alors Dieu, si vous avez foi, il ne va pas passer en dernier. Il ne va pas être le dernier servi. Mais vous allez toujours vous occuper d'abord des choses de Dieu. D'abord lui et après mes intérêts. Lorsque Jésus nous parle de la nourriture et du vêtement en Matthieu 6, et c'est les choses les plus vitales, hein, les besoins les premiers, hein, nourriture et le vêtement. Mais Jésus conclut en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est les choses les premières, les plus importantes. Mais lui, il dit, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et on aurait tendance à chercher toujours premièrement, nos intérêts personnels. Et on retrouve ici l'idée d'indépendance. Hein. Mais le problème, c'est qu'on est tellement indépendant qu'on n'est pas prêt à dépendre de Dieu. Indépendant des hommes, indépendant de Dieu. Et dans le fait de chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu, eh bien ça nous oblige à compter sur Dieu. Parce qu'on le met lui d'abord en premier. Mais alors, mais qui s'occupe de moi, quoi, hein? Si je fais d'abord passer ses intérêts avant les miens. Et ça nous est difficile. Dans ce « prépare-moi d'abord », il y a la pensée encore de faire confiance à Dieu. Accepter de dépendre de lui. Ça nous fait peur, mais ça, c'est le témoignage de la foi. Si je crois, eh bien, je fais confiance d'abord Dieu. Si je crois, alors je vais mettre Dieu en premier. Je ne vais pas lui donner les restes de mon repas, mais je vais le servir en premier avec ce qui sort du four. Je ne vais pas lui faire une offrande à la fin du mois s'il reste quelque chose sur mon compte, mais je vais le servir en premier. Je vais lui donner les prémices. Je ne vais pas lui donner 1h30 à la fin de la semaine si je ne suis pas trop fatigué, mais je vais lui donner le meilleur de mon temps. Je vais lui donner le temps qu'il me demande. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que j'ai les intérêts de Dieu à cœur, vraiment? Est-ce que je suis prêt à le servir lui d'abord, avant moi? Parce que c'est toujours ça, hein? C'est moi d'abord ou lui d'abord. Quel est notre choix, hein? Lui dit, ne crains pas, prépare-moi d'abord. Et la troisième chose qu'il nous dit, c'est la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il promet qu'on ne manquera de rien, qu'on sera secouru, qu'il y a des forces nouvelles qui nous seront accordées, que eh bien ça se passera bien. On aura le secours de Dieu qui sera au rendez-vous. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, « Toutes choses vous seront données par-dessus. » Et l'Éternel dit dans l'Ancien Testament, « La farine ne manquera point, l'huile ne diminuera point. » Et on voit la promesse de Dieu, elle est toujours la même, tout au long des Écritures. Parce que Jésus-Christ est toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même. En écrivant ça, j'ai pensé à ce chant de Didier, encore un chant de Didier que nous n'avons pas appris. Donc peut-être certains l'ont entendu, mais pas tous. Et j'aimerais vous lire les paroles de ce chant. Donc c'est des questions hein, qu'il pose et qui appellent une réponse logique. Le chant dit... La lumière a-t-elle cessé d'éclairer? La réponse est, mais non, bien sûr que non. La lumière de Dieu continue à éclairer. La parole suffit-elle à bénir? Est-ce que la parole suffit? Mais oui. À chaque fois, il y a une réponse. L'eau du ciel ne saurait plus désaltérer? Mais oui, elle désaltère. Comment le pain pourrait-il nous nourrir? Bien sûr qu'il nourrit. Et le refrain dit « Christ est le même, hier, aujourd'hui et demain. Toujours le même, il reste le chemin. Crois sa parole, c'est la boussole, qui demeure éternellement, jamais, non jamais, il ne ment. Le rocher ne serait plus un surabri? Comment croire qu'il soit la vérité? Le berger n'aurait-il plus soin de ses brebis? Si la vie ne pouvait enfanter? Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Toujours le même, il reste le chemin. Crois sa parole, c'est la boussole, qui demeure éternellement, jamais, non jamais, il ne ment. L'évangile aurait-il perdu sa puissance d'accorder salut et délivrance? Si la croix n'avait plus toute suffisance, à quoi bon sa mort et ses souffrances? Christ est le même, aujourd'hui hier, aujourd'hui et demain. Toujours le même, il reste le chemin. Crois sa parole. C'est la boussole qui demeure éternellement. Jamais, non, jamais il ne ment. Et Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé, il ne change pas. Ses promesses sont toujours les mêmes, mais est-ce qu'on lui fait confiance? Alors, il nous dit ces trois choses. Il nous dit, ne crains pas, prépare-moi d'abord, et puis la farine et l'huile ne manqueront pas. Donc, cette veuve, elle était au pays de Sidon, dans le nord d'Israël, là où était la Phénicie. Donc, elle n'était pas juive. Elle dit d'ailleurs au verset 12, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Elle ne parle pas de son Dieu, elle parle du Dieu d'Élie. Et pourtant, elle va croire, elle va faire confiance. Regardez versets 15 et 16. « Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. » Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et j'en viens maintenant à ma proposition première que je vous avais donnée. Il faut s'unir pour voir Dieu agir. Si Élie avait refusé d'obéir à l'Éternel, par exemple comme Jonas, vous savez, Jonas, Dieu lui a dit « va là-bas à Ninive », mais il a dit non. Ben, si Élie, il avait dit « mais non, je ne vais pas aller dans le territoire de Sidon, là-bas, non ». Non. Eh bien, il n'aurait pas survécu à la sécheresse. Si la veuve n'avait pas accueilli Élie de la bonne manière, on l'a un juif, non merci, hein. Je vais garder ça pour moi hein, et pour mon fils, c'est plus important. Eh bien, elle serait morte également. Mais tous les deux ont obéi, hein, on peut dire, à Dieu. Et ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Alors, eh bien, il y a eu un miracle qui s'est fait. Ils ont mis en commun ce qu'ils possédaient. Élie avait ce don hein, reçu de Dieu, capacité de faire un miracle. Et la veuve avait, on peut dire, un peu la matière première pour faire ce miracle. Alors, eh bien, ils se sont associés, en quelque sorte. Ils ont fait confiance à Dieu. Et là, miracle, la farine ne manque point, l'huile ne diminue point. Et j'aimerais ici mettre l'accent sur l'importance de s'unir pour voir Dieu agir. Lorsque Dieu a envoyé ses disciples deux à deux, ils avaient l'obligation de s'unir. Ils ne pouvaient pas ne pas marcher ensemble. Hein. Deux hommes, est-ce que, eh bien, avant de marcher ensemble, ils ne se concertent pas? Ben oui, ils se concertent et voilà, ils s'accordent hein, et puis après, ils peuvent marcher ensemble. Ils avaient l'obligation de s'aimer. Comment auraient-ils pu faire des choses pour Dieu s'ils étaient en train de se batailler ensemble, hein, s'ils étaient divisés, s'aimer, marcher ensemble pour voir Dieu agir? On s'émerveille aussi de la première église de Jérusalem. On y voit un Dieu qui agit, plein de choses s'y passent. Mais c'est parce qu'il y avait l'amour, c'est parce qu'il y avait l'unité, parce qu'il y avait un désir d'être ensemble, le pardon, la réconciliation. Alors bien Dieu a béni cette première assemblée. Et il y a vraiment une nécessité de travailler à l'unité sur l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et c'est très important parce que c'est quand il y a cet amour qu'alors, eh bien, la farine ne tarit pas et l'huile ne diminue pas. Qu'est-ce que c'est que cette farine et cette huile? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait des offrandes pour les sacrifices, donc il y avait tous les sacrifices d'animaux, les bêtes qui étaient offertes hein, sur l'autel en holocauste, hein, mais il y avait aussi d'autres offrandes, et il y avait une offrande qui revient très très souvent, c'est la fleur de farine qui était pétrie à l'huile. Donc on versait de l'huile dans la farine la plus fine, et on pétrissait, on malaxait le tout. Et la farine, eh bien, c'est encore ici une image de Jésus-Christ. C'est comme la manne descendue du ciel. Il est le pain de vie, hein, le pain qui nous nourrit. Il est cette farine nourrissante. Hein. Et l'huile, eh bien, c'est bien sûr une image de l'esprit encore. Hein, c'est toujours l'esprit dont il était rempli. Et Christ a été brisé, il a été travaillé dans le creuset de la souffrance, tout comme la farine était pétrie avec l'huile, comme ça. Mais ce qui est beau ici, c'est cette union, cette association d'Élie et de la veuve. Parce que ça débouche sur l'abondance. Abondance de farine, abondance d'huile. Chaque jour, le pot de farine était renouvelé. Chaque jour, l'huile était là, dans la cruche. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque Dieu voit qu'il y a l'unité, qu'il y a l'amour, qu'il y a une véritable association. Quand il y a cette confiance, cet amour les uns pour les autres, alors c'est le moment où Dieu agit. Dieu remplit, Dieu bénit. À ce moment-là, Jésus-Christ est présent et puis l'Esprit, loin. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser des petites choses comme ça entre les uns et les autres, des problèmes qui ne se règlent pas, qu'on laisse traîner. On se satisfait d'une situation, ce n'est pas possible. On a besoin de chercher la volonté de Dieu, désirer le meilleur, viser le meilleur. Parce qu'on a besoin de la farine et de l'huile. On a besoin de ça pour vivre. Psaume 33, pour conclure. Il est dit « Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Est-ce qu'il est doux pour vous de demeurer avec vos frères? Est-ce que c'est bon, c'est agréable? Pas simplement avec ceux avec qui vous vous entendez le mieux. Pas simplement avec ceux avec qui vous avez des affinités, des atomes crochus, là ça passe bien, le courant passe bien. Mais demeurez avec tous vos frères et sœurs. Une dernière question. Est-ce que vous avez fait ce qu'il faut cette semaine pour régler peut-être un froid, une fausse note, une incompréhension, une amertume vis-à-vis de quelqu'un? Ou bien est-ce que vous avez l'intention de le faire? C'est quand il est agréable et quand il est doux de demeurer ensemble, alors c'est là où l'huile, elle coule, où elle déborde. C'est là où le Seigneur se manifeste. Le psaume le dit, c'est là que Dieu envoie bénédiction et vie pour l'éternité. On va s'incliner dans la prière.